Bonjour, merci d'être nombreux encore dans cet auditorium du Petit Palais qui nous reçoit encore en ce mois de décembre. Et puis après, il y aura une interruption avant nos enjeux. Alors, vous n'entendrez pas la voix de Bernard Noël aujourd'hui. J'espère que vous êtes au courant qu'il y a eu un report de cette séquence, entre guillemets, entendez voir avec Bernard Noël. C'est reporté, ce n'est pas annulé. Et ça aura lieu absolument. Bernard Noël, je l'ai eu au téléphone, nous avons échangé, donc il n'y a aucun problème, cette séance aura lieu. Mais voilà, on avait besoin de temps, il avait besoin de temps pour le faire. Et donc, pour non pas le remplacer, mais conserver cette date précieuse pour nous et ce rendez-vous très amical, chaleureux avec l'Institut national de l'audiovisuel, nous avons évidemment imaginé de saluer le Nobel de Patrick Modiano qui lui a été décerné, vous le savez, le 9 octobre dernier. Donc, à la Maison des écrivains, bien entendu, nous voulions lui donner ce temps. Je lui écris, il sait que nous sommes réunis aujourd'hui autour de lui, de sa voix, de sa parole. Vous allez voir, vous le savez, elle est extrêmement étonnante dans les entretiens. Je remercie bien entendu Serpentine Tessier, qui va se faire la lectrice de deux ouvrages de Modiano. On s'est mises d'accord toutes les deux. Il y aura la place de l'étoile pour commencer. Et ensuite, dans le café de la jeunesse perdue, elle en a choisi les extraits. Et Serpentine Tessier est une complice de la Maison des écrivains et de la littérature. Nous l'aimons beaucoup, nous aimons sa manière d'appréhender les textes. Elle joue en ce moment au théâtre avec Emmanuel Laborie qui a mis en scène La Reine-Mère au théâtre IVT. J'y tiens parce que je tiens à le dire puisque c'est un spectacle qu'elle... tu as appris la langue des signes, Serpentine, et tu joues avec Bachir Saïfi dans cette pièce de théâtre à deux rôles. La Reine-Mère qui est un ensemble de contes autour de Blanche-Neige, si j'ai bien compris.
Du thème de Blanche-Neige. Et je vais vous faire la grâce de ne pas vous faire une lecture en langue des signes.
Voilà. Et Serpentine s'éclipsera très précisément à 13h45 pour aller jouer à 15h. Voilà. Je vais céder la parole à Joël Olivier qui a été ma complice sur le choix, heureusement plus que ma complice, même on a décidé ensemble des extraits que vous allez voir qui retracent en quelque sorte le passage de Patrick Modiano à la télévision. Mais avant de lui céder la parole, je vous lis ceci parce que j'ai trouvé éclairante cette proposition que fait Pierre Maury dans un numéro spécial du magazine littéraire dédié à Modiano cet automne. Je crois qu'il décrit à peu près ce que vous allez voir et ce que je pense profondément. Et puis vous verrez, on terminera cette série d'archives par une très belle prise de parole d'Hector Biancotti, ce qui nous permet de lui rendre hommage à lui aussi, qui parle de cette précision, de la précision en matière d'écriture. Et je trouve ça tellement magnifique et tellement juste par rapport à l'œuvre de Modiano, dans ce flou dont parle Pierre Maury, ce flou de parole. Non, ce beau grand jeune homme timide ne changera pas. Il reste toujours un interlocuteur difficile à suivre, un de ces écrivains dont il est ardu d'obtenir des réponses claires et précises aux questions sur lesquelles on voudrait cependant tellement être éclairé. Pourtant, ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Et d'ailleurs, il cherche ses mots aussi précisément que possible, en passant par des détours qui doivent correspondre à sa manière de penser. Dans les inévitables points de suspension de ses propos, il faut entendre autant de silence que de tentatives avortées d'arriver plus près de la réponse définitive. Mais il y a si peu de certitude dans ses livres qu'on s'en voudrait presque d'en désirer davantage dans ce qu'il dit. Voilà, à toi Joël.
Oui, bonjour. Alors je vais faire très 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 court pour que vous ayez le plaisir d'écouter Serpentine. Nous avons choisi cinq extraits, cinq documents. Oui, je voulais rappeler pour ceux qui étaient à cette séance, Laurence Tardieu avait choisi Patrick Modiano il y a déjà 3 ans maintenant, puisque nous sommes ici, et c'est la dernière au Petit Palais, nous sommes ici depuis janvier 2009. Nous avons inauguré les rencontres Entendez voir à ce moment-là. Et donc, avec Sylvie, nous avons voulu vous montrer d'autres extraits. Et comme on avait le choix, on s'est fait plaisir. Donc, ce sont 5 documents qui sont entre la période de 1970, donc du tout jeune Modiano, qui arrive à la télévision. C'est une de ses premières interviews. Et puis, le dernier document, c'est 1996, chez Laure Adler. Alors, ce qu'on a voulu montrer, c'est surtout le voir et l'entendre. Vous savez qu'on a toujours dit que Modiano avait une parole difficile à la télévision. C'est vrai, mais en fait, vous allez sans doute vous en rendre compte dans les premières années, quand il est seul, il est tout à fait compréhensible, audible, et il a le temps de dire et de dérouler sa pensée. Et quand il arrive sur un plateau comme celui de Bernard Pivot, où il est entouré de nombreux autres invités, souvent ce sont les autres qui parlent à sa place ou qui lui coupent la parole et il laisse filer et il attend la question suivante. Mais vous allez découvrir ça avec... alors vous verrez les titres des émissions, des réalisateurs, et on s'est attaché aussi aux intervieweurs. Donc on retrouvera Pierre Dumayet, on va retrouver Bernard Pivot et Laure Adler. Voilà, des temps de télévision à des époques différentes. Au début, vous verrez, c'est une forme de petit reportage magazine. Donc on a essayé de couvrir un petit peu ces années de Patrick Modiano à la télévision. La totalité des extraits, ça fait une quarantaine de minutes. Mais donc Serpentine va d'abord lire... nous proposer d'abord une lecture, ensuite on projettera les trois premiers extraits et puis on s'arrêtera pour profiter encore de lecture et on terminera après la fin du film. Et puis je vais vous demander de croiser les doigts parce qu'on a eu un petit souci technique de DVD ce matin. Grâce à Enzo, tout devrait être résolu, il ne devrait pas y avoir pas du tout de problème. Et si jamais il y avait un petit bug technique, on le résoudra. Et grâce à vous et à votre amitié, tout se passera bien de toute façon. Merci.
Je vais commencer par un petit extrait de La Place de l'Étoile. Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'Étoile ?» Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. Histoire juive. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien. Certains ne parlaient plus que de ma belle jeunesse et de mes boucles noires. D'autres m'abreuvaient d'injures. Je relis une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabatet dans un numéro spécial d'Ici la France. Jusqu'à quand devrons-nous assister aux frasques de Raphaël Schlemilowitsch? Jusqu'à quand ce juif promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies du Touquet au Cap d'Antibes, de la Baule à Aix-les-Bains? Je pose une dernière fois la question. Jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France? Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse juive? Dans le même journal, le docteur Bardamu éructait sur mon compte. Schlemilowitsch! Ah, la moisissure de ghetto terriblement puante, pas moison chiotte, foutriquet prépuce, arsouille libano-ganac, rentemplant, vlan. Contemplez donc ce gigolo yiddish, cet effréné en paffeur de petites ariennes, avorton infiniment négroïde, cet abyssin frénétique jeune nabab. À l'aide, qu'on les tripe, le châtre, délivrez le docteur d'un pareil spectacle, qu'on le crucifie, nom de Dieu! Rastaquer des cocktails infâmes, youtre des palaces internationaux, des partous made in Haïfa, Cannes, Davos, Capri et tutti quanti. Grand bordel extrêmement hébraïque, délivrez-nous de ce circoncis muscadin, ces Maserati rose Salomon, ces yachts façon Tibériade, ces cravates Sinaï. Que les ariennes, ses esclaves, lui arrachent le gland avec leurs belles quenottes de chez nous, leurs mains mignonnes, lui crèvent les yeux. Sus au calife! Révolte au harem chrétien, vite, vite! Refus de lui lécher les testicules, lui faire des mignardises contre des dollars. Libérez-vous du cran, Madelon! Autrement, le docteur, il va pleurer, se consumer. Affreuse injustice!
Complot du Sanhédrin. On en veut à l'avis du docteur. Croyez-moi, le consistoire, la banque Rothschild, Cahan d'Anvers, Schlemilovic et des Bardamus, fillette, au secours. Le docteur ne me pardonnait pas mon Bardamus démasqué que je lui avais envoyé de Capri. Je révélais dans cette étude mon émerveillement de jeune juif quand, à 14 ans, je lus d'un seul trait le voyage de Bardamus et les enfances de Louis Ferdinand. Je ne passais pas sous silence ces pamphlets antisémites, comme le font les bonnes âmes chrétiennes. J'écrivais à leur sujet « Le docteur Bardamus consacre une bonne partie de son œuvre à la question juive. Rien d'étonnant à cela, le docteur Bardamus est l'un des nôtres, c'est le plus grand écrivain juif de tous les temps. Voilà pourquoi il parle de ses frères de race avec passion. » Dans ses œuvres purement romanesques, le docteur Bardamus rappelle notre frère de race, Charlie Chaplin, par son goût des petits détails pitoyables, ses figures émouvantes de persécutés. La phrase du docteur Bardamus est encore plus juive que la phrase tarabiscotée de Marcel Proust. Une musique tendre, larmoyante, un peu raccrocheuse, un tantinet cabotine. Et je concluais... Seuls les juifs peuvent vraiment comprendre l'un des leurs. Seul un juif peut parler à bon escient du docteur Bardamus. Pour toute réponse, le docteur m'envoya une lettre injurieuse. Selon lui, je dirigeais à coups de partouzes et de millions le complot juif mondial. Je lui fis parvenir aussitôt ma psychanalyse de Dreyfus, où j'affirmais noir sur blanc la culpabilité du capitaine. Voilà qui était original de la part d'un juif. J'avais développé la thèse suivante. Alfred Dreyfus aimait passionnément la France de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc et des Chouans, ce qui expliquait sa vocation militaire. La France, elle, ne voulait pas du juif Alfred Dreyfus. Alors il l'avait trahi, comme on se venge d'une femme méprisante aux éperons en forme de fleur de lys. Barrès, Zola et Déroulède ne compriment rien à cet amour malheureux. Une telle interprétation décontenança sans doute le docteur. Il ne me donna plus signe de vie. Les vociférations de Rabat-Tête et de Bardamus étaient étouffées par les éloges que me décernaient les chroniqueurs mondains. La plupart d'entre eux citaient Valéry Larbeau ou Scott Fitzgerald. On me comparait à Barnabooth, on me surnommait « The Young Gatsby ». Les photographies des magazines me représentaient toujours la tête penchée, le regard perdu vers l'horizon. Ma mélancolie était proverbiale dans les colonnes de la presse du cœur. Aux journalistes qui me questionnaient devant le Carlton, le Normandie ou le Miramar, je proclamais inlassablement ma juiverie. D'ailleurs, mes faits et gestes, elle est à l'encontre des vertus que l'on cultive chez les Français, la discrétion, l'économie, le travail. J'ai de mes ancêtres orientaux l'œil noir, le goût de l'exhibitionnisme et du faste, l'incurable paresse. Je ne suis pas un enfant de ce pays. Je n'ai pas connu les grands-mères qui vous préparent des confitures, ni les portraits de famille, ni le catéchisme. Pourtant, je ne cesse de rêver aux enfances provinciales. La mienne est peuplée de gouvernantes anglaises et se déroule avec monotonie sur des plages frelatées. À Deauville, Miss Evelyn me tient par la main. Maman me délaisse pour des joueurs de polo. Elle vient m'embrasser le soir dans mon lit, mais quelquefois, elle ne s'en donne pas la peine. Alors je l'attends. Je n'écoute plus Miss Evelyn et les aventures de David Copperfield. Chaque matin, Miss Evelyn me conduit au Poney Club. J'y prends mes leçons d'équitation. Je serai le plus célèbre joueur de polo du monde pour plaire à maman. Les petits Français connaissent toutes les équipes de football. Moi, je ne pense qu'au polo. Je me répète ces mots magiques. Laversine, Tibao la Pampa, Silver Lace, Porfirio Rubirosa, Au Poney Club, on me photographie beaucoup avec la jeune princesse Layla, ma fiancée. L'après-midi, Miss Evelyn nous achète des parapluies en chocolat chez la marquise de Sévigné. Layla préfère les sucettes. Celles de la marquise de Sévigné ont une forme oblongue et un joli bâtonnet. Il m'arrive de semer Miss Evelyn quand elle m'emmène à la plage. Mais elle sait où me trouver. Avec l'ex-roi Firouz ou le baron Truffaldine, deux grandes personnes qui sont mes amies. L'ex-roi Firouz m'offre des sorbets à la pistache en s'exclamant « Aussi gourmand que moi, mon petit Raphaël !» Le baron Truffaldine se trouve toujours tout seul et triste au bar du soleil. Je m'approche de sa table et me plante devant lui. Ce vieux monsieur me raconte alors des histoires interminables dont les protagonistes s'appellent Cléo de Mérode, Othéro, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, Odette de Crécy. Des fées, certainement, comme dans les contes d'Andersen. Les autres accessoires qui encombrent mon enfance sont les parasols orange de la plage, le précatelan, le courat-mer, David Copperfield, la comtesse de Ségur, l'appartement de ma mère Kay Conti et trois photos de Lipnitsky où je figure à côté d'un arbre de Noël.
Donc, le Serpentine va lire un extrait d'un texte donc, de Modiano qui est dans le café de la jeunesse perdue, qui date de 2007. En 2008, je le signale, puisque Jérôme Prieur est dans la salle, Modiano va préfacer le journal d'Hélène Baer. Et je crois que vous savez que Jérôme Prieur a consacré un film absolument admirable à ce journal. Serpentine, tu vas lire ce texte. Et je voudrais signaler, puisque tu me l'as dit, que ton père était un camarade proche de Modiano et qu'ils ont marché ensemble, on va dire, puisque ton père était un artiste peintre. Je signale aussi qu'en 1978, Modiano recevait le Goncourt pour Rue des Boutiques Obscures. Voilà, à toi.
Oui, à propos de cette petite anecdote, petite parenthèse, j'ai jamais su exactement comment mon père avait rencontré Modiano. J'en ai jamais parlé avec lui. Donc, mais quand j'ai lu justement dans le café de la jeunesse perdue, j'ai une petite idée. À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue, Guy Debord. Des deux entrées du café, elle empruntait toujours la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de l'ombre. Elle choisissait la même table au fond de la petite salle. Les premiers temps, elle ne parlait à personne, et puis elle a fait connaissance avec les habitués du Condé, dont la plupart avaient notre âge, je dirais entre 19 et 25 ans. Elle s'asseyait parfois à leur table, mais le plus souvent, elle était fidèle à sa place, tout au fond. Elle ne venait pas à une heure régulière. Vous la trouviez assise là très tôt le matin ou alors elle apparaissait vers minuit et restait jusqu'au moment de la fermeture. C'était le café qui fermait le plus tard dans le quartier, avec le bouquet et la pergola. Et celui dont la clientèle était la plus étrange. Je me demande avec le temps si ce n'était pas sa seule présence qui donnait à ce lieu et à ces gens leur étrangeté. Comme si elle les avait imprégnés tous de son parfum. Supposons que l'on vous ait transporté là, les yeux bandés, que l'on vous ait installé à une table, enlevé le bandeau et laissé quelques minutes pour répondre à la question « Dans quel quartier de Paris êtes-vous » Il vous aurait suffi d'observer vos voisins et d'écouter leurs propos et vous auriez peut-être deviné. Dans les parages du carrefour de l'Odéon que j'imagine toujours aussi morne sous la pluie. Un photographe était entré un jour au Condé. Rien dans son allure ne le distinguait des clients, le même âge, la même tenue vestimentaire négligée. Il portait une veste trop longue pour lui, un pantalon de toile et de grosses chaussures militaires. Il avait pris de nombreuses photos de ceux qui fréquentaient le Condé. Il en était devenu un habitué lui aussi.
Et pour les autres, c'était comme s'ils prenaient des photos de famille. Bien plus tard, elles ont paru dans un album consacré à Paris avec, pour légende, les simples prénoms des clients ou leurs surnoms. Et elle figure sur plusieurs de ces photos. Elle accrochait mieux que les autres la lumière, comme on dit au cinéma. De tous, c'est elle que l'on remarque d'abord. En bas de page, dans les légendes, elle est mentionnée sous le prénom de Louki. De gauche à droite, Zacharias, Louki, Tarzan, Jean-Michel, Fred et Ali Chérif. Au premier plan, assise, au comptoir, Louki. Derrière elle, Annette, Don Carlos, Mireille, Adamov et le docteur Valla. Elle se tient toujours très droite, alors que les autres ont des postures relâchées. Celui qui s'appelle Fred, par exemple, s'est endormi la tête appuyée contre la banquette de Moleskine et visiblement, il ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours. Il faut préciser ceci. Le prénom de Louki lui a été donné à partir du moment où elle a fréquenté le Condé. J'étais là, un soir, où elle est entrée vers minuit et où il ne restait plus que Tarzan, Fred, Zacharias et Mireille, assis à la même table. C'est Tarzan qui a crié « Tiens, voilà Louki !» Elle a paru d'abord effrayée, puis elle a souri. Zacharias s'est levé et sur un ton de fausse gravité, « Cette nuit, je te baptise, désormais tu t'appelleras Louki !» Et à mesure que l'heure passait et que chacun d'eux l'appelait Louki, je crois bien qu'elle se sentait soulagée de porter ce nouveau prénom. Oui, soulagée. En effet, plus j'y réfléchis, plus je retrouve mon impression du début. Elle se réfugiait ici, au Condé, comme si elle voulait fuir quelque chose, échapper à un danger. Cette pensée m'était venue en la voyant seule, tout au fond, dans cet endroit où personne ne pouvait la remarquer. Et quand elle se mêlait aux autres, elle n'attirait pas non plus l'attention. Elle demeurait silencieuse et réservée et se contentait d'écouter. Et je m'étais dit que, pour plus de sécurité, elle préférait les groupes bruyants, les grandes gueules. Sinon, elle n'aurait pas été presque toujours assise à la table de Zacharias, de Jean-Michel, de Fred, de Tarzan et de la Houpa. Avec eux, elle se fondait dans le décor. Elle n'était plus qu'une comparse anonyme, de celle que l'on nomme dans les légendes des photos, personne non identifiée, ou plus simplement X. Oui. Les premiers temps au Condé, je ne l'ai jamais vue en tête à tête avec quelqu'un. Et puis, il n'y avait aucun inconvénient à ce que l'une des grandes gueules l'appelle Louki à la cantonade, puisque ce n'était pas son vrai prénom. Pourtant, à bien l'observer, on remarquait certains détails qui la différenciaient des autres. Elle mettait à sa tenue vestimentaire un soin inhabituel chez les clients du Condé. Un soir, à la table de Tarzan, d'Ali Chérif et de la Houpa, elle allumait une cigarette. J'avais été frappée par la finesse de ses mains. Et surtout, ses ongles brillaient. Ils étaient recouverts de vernis incolore. Ce détail risque de paraître futile. Alors, soyons plus graves. Il faut pour cela donner quelques précisions sur les habitués du Condé. Ils avaient donc entre 19 et 25 ans, sauf quelques clients comme Babilé, Adamov ou le docteur Valla, qui atteignaient peu à peu la cinquantaine, mais on oubliait leur âge. Babilé, Adamov et le docteur Valla étaient fidèles à leur jeunesse, à ce que l'on pourrait appeler du beau nom mélodieux et désuet de bohème. Je cherche dans le dictionnaire bohème, personne qui mène une vie vagabonde, sans règles ni soucis du lendemain. Voilà une définition qui s'appliquait bien à celles et à ceux qui fréquentaient le Condé. Certains comme Tarzan, Jean-Michel et Fred prétendaient avoir eu affaire de nombreuses fois à la police depuis leur adolescence. Et la Houpa s'était échappée à 16 ans de la maison de correction du Bon Pasteur. Mais on était sur la rive gauche. Et la plupart d'entre eux vivaient à l'ombre de la littérature et des arts. Moi-même, je faisais des études. Je n'osais pas le leur dire et je ne me mêlais pas vraiment à leur groupe. J'avais bien senti qu'elle était différente des autres. D'où venait-elle avant qu'on lui ait donné son prénom ? Souvent, les habitués du Condé avaient un livre à la main qu'ils posaient négligemment sur la table et dont la couverture était tachée de vin. Les chants de Maldoror, les illuminations, les barricades mystérieuses. Mais elle, au début, elle avait toujours les mains vides. Et puis, elle a voulu sans doute faire comme les autres et un jour, au Condé, je l'ai surprise, seule, qui lisait. Depuis, son livre ne la quittait pas. Elle le plaçait bien en évidence sur la table quand elle se trouvait en compagnie d'Adamov et des autres, comme si ce livre était son passeport ou une carte de séjour qui légitimait sa présence à leur côté. Mais personne n'y prêtait attention, ni Adamov, ni Babilé, ni Tarzan, ni Laoupa. C'était un livre de poche à la couverture salie de ceux qu'on achète d'occasion sur les quais et dont le titre était imprimé en grand caractère rouge. Horizon perdu. À l'époque, cela ne m'évoquait rien. J'aurais dû lui demander le sujet du livre, mais je m'étais dit bêtement qu'Horizon perdu n'était pour elle qu'un accessoire et qu'elle faisait semblant de le lire pour se mettre au diapason de la clientèle du Condé. Cette clientèle. Un passant qui aurait jeté un regard furtif de l'extérieur et même appuyé un instant son front contre la vitre l'aurait prise pour une simple clientèle d'étudiants. Mais il aurait bientôt changé d'avis en remarquant la quantité d'alcool que l'on buvait à la table de Tarzan, de Mireille, de Fred et de la Houpa. Dans les paisibles cafés du quartier latin, on n'aurait jamais bu comme ça. Bien sûr, aux heures creuses de l'après-midi, le Condé pouvait faire illusion. Mais à mesure que le jour tombait, il devenait le rendez-vous de ce qu'un philosophe sentimental appelait « la jeunesse perdue ». Pourquoi ce café plutôt qu'un autre ? À cause de la patronne, une madame Chadli qui ne semblait s'étonner de rien et qui manifestait même une certaine indulgence pour ses clients. Bien des années plus tard, alors que les rues du quartier n'offraient plus que des vitrines de boutiques de luxe et qu'une maroquinerie occupait l'emplacement du Condé, j'ai rencontré madame Chadli sur l'autre rive de la Seine, dans la montée de la rue Blanche. Elle ne m'a pas tout de suite reconnue. Nous avons marché un long moment côte à côte en parlant du Condé. Son mari, un Algérien, avait acheté le fonds après la guerre. Et elle se souvenait des prénoms de nous tous. Elle se demandait souvent ce que nous étions devenus, même si elle ne se faisait guère d'illusions. Elle avait su dès le début que cela tournerait très mal pour nous. « Des chiens perdus », m'a-t-elle dit. Et au moment de nous quitter, devant la pharmacie de la Place Blanche, elle m'a confié en me regardant droit dans les yeux, moi, celle que je préférais, c'était Luki. Quand elle était à la table de Tarzan, de Fred et de la Houpa, buvait-elle autant qu'eux ou faisait-elle semblant pour ne pas les fâcher ? En tout cas, le buste droit, les gestes lents et gracieux et le sourire presque imperceptible, elle tenait rudement bien l'alcool. Au comptoir, il était plus facile de tricher. Vous profitez d'un moment d'inattention de vos amis ivrognes pour vider votre verre dans l'évier. Mais là, à l'une des tables du Condé, c'était plus difficile. Ils vous forçaient à les suivre dans leur beuverie. Ils se montraient là-dessus d'une extrême susceptibilité et vous considéraient comme indigne de leur groupe si vous ne les accompagniez pas jusqu'au bout de ce qu'ils appelaient leur voyage. Quant aux autres substances toxiques, j'avais cru comprendre, sans en être sûre, que Luki en usait, avec certains membres du groupe. Pourtant, rien dans son regard et son attitude ne laissait supposer qu'elle visitait les paradis artificiels. Je me suis souvent demandé si l'une de ses connaissances lui avait parlé du Condé avant qu'elle y entre pour la première fois, ou si quelqu'un lui avait donné rendez-vous dans ce café et n'était pas venu. Alors, elle se serait postée, jour après jour, soir après soir, à sa table, en espérant le retrouver dans cet endroit, qui était le seul point de repère entre elle et cet inconnu. Aucun autre moyen de le joindre, ni adresse, ni numéro de téléphone, juste un prénom. Mais peut-être avait-elle échoué là, par hasard, comme moi. Elle se trouvait dans le quartier, elle voulait s'abriter de la pluie. J'ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attirés vers eux si vous marchez dans leur parage. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d'une rue en pente, d'un trottoir ensoleillé, ou bien d'un trottoir à l'ombre, ou bien d'une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l'on faisait un calcul de probabilité, le résultat l'aurait confirmé. Dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. J'en sais quelque chose.
Merci beaucoup, Serpentine. Eh bien, on va revenir aux images après cette belle lecture. Je vous disais, apostrophe, 1988, Bernard Pivot. Et Patrick Modiano est venu très souvent à apostrophe. Je pense que c'est là aussi que beaucoup l'ont découvert. Il est entouré d'autres auteurs, mais Sylvie Goudbaron voulait absolument qu'on choisisse cette émission parce qu'il est là, Modiano, pour parler de son livre qui vient de sortir. Mais il est là à côté de son ami qui est Jean-Marc Roberts. Et donc c'était aussi l'occasion de les retrouver ensemble. Et Sylvie tenait beaucoup et il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire plaisir et de vous faire plaisir par la même occasion. Alors vous verrez, comme il y a d'autres invités, je crois que Bernard Pivot les nomme, puis vous allez sûrement les reconnaître, mais il y a Michel Mort, qu'on entend un tout petit peu, mais qu'on ne verra pas beaucoup. Mais surtout, il y a Jean Co, qui va prendre la parole, et puis Alain Robbe-Grillet, qui va dire un certain nombre de choses qui sont étonnantes. Pas étonnantes, mais je vous les laisse découvrir. Et voilà. Et puis ensuite, donc Laure Adler en 1996, et là deux autres écrivains qui vont parler de Modiano, c'est Pascal Quignard et Hector Bianciotti, que Sylvie citait tout à l'heure, et c'est lui qui aura le mot de la fin, en tout cas de la fin des archives pour aujourd'hui. Merci.
Oui, voilà, nous avions vraiment envie d'achever ce... Ça y est, je vais parler comme lui, mais ça ne va pas du tout. De parachever ces archives par les phrases, les propos de Bianciotti que je trouve vraiment superbes et qui, personnellement, me semblent restituer parfaitement l'œuvre de Modiano. En quelques mots, il dit ce qu'est l'absolu d'une phrase de Modiano. Et puis, on sourit, mais c'est tellement touchant d'entendre un écrivain parler si mal et si bien en même temps de son travail. Nous, on est là pour les faire parler. C'est une question qu'on se pose souvent à la Maison des écrivains. Comment rendre audible et inouïe une parole d'auteur? Et je crois que Patrick Modiano incarne parfaitement ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à faire. Et c'est du coup extrêmement poétique. Et moi, ça me touche énormément, puisque au fond, il n'y a pas meilleur descripteur de ce qu'il fait que lui-même, même si les autres l'aident parfois très bien. Pas forcément Robbe-Grillet qui y va, mais en même temps, il dit des choses extraordinaires sur cette incapacité à dire qui est le fait de Patrick Modiano. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Demain soir, nous serons au Centre national du livre avec Anne Weber. En fait, tout notre programme est absolument faux de A à Z, vous l'aurez remarqué. Mais comme actuellement, on est vraiment dans des matières très problématiques de recherche de salles, de lieux, c'est vrai que c'est très compliqué de travailler au quotidien, de penser à la littérature comme on le fait et comme on l'aime, et puis d'être dans des problématiques très pragmatiques qui troublent le cerveau. Merci à tous. Donc demain soir et puis mercredi prochain, on est ici avec Nuno Judice qui vient du Portugal pour une séance poétique avec Benoît Connor. Et puis ensuite, il y aura les enjeux à la fin du mois de janvier. Nos prochains enjeux, la 8e édition. Le programme est bouclé, il nous manque un lieu. pour accueillir Enrique Villamatas et Valer Novarina. Ça n'est pas rien. Nous sommes vraiment à la recherche de cela, mais on va trouver. On sera reçu à la Comédie Française grâce à Denis Podalides qui nous a soutenus et Eric Ruff qui nous accueille le 29. Puis ici, trois jours, Jérôme Prieur sera avec nous. Il y aura aussi Philippe Collin qui est ici. On projettera des choses de ces deux hommes qu'on aime beaucoup. Voilà, donc merci. Et pour Lina, eh bien, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera, on vous l'annoncera, on ne sait pas encore où.